Bienvenue dans Vue de Russie, le magazine hebdomadaire donc, qui analyse la propagande de Vladimir Poutine avec Elena Volochine qui sort un livre justement sur le sujet. Propagande, l'arme de guerre de Vladimir Poutine. On va aussi en parler. Bonsoir Elena.
Bonsoir Stéphanie.
Propagande, l'arme de guerre. Alors que, en tout cas, vous paru aux éditions Autrement, hein, je vous montre le livre, nous allons en parler. Tout d'abord, Elena, quels sont les sujets sur les chaînes de télévision russes qui ont retenu votre attention cette semaine?
Alors, dans la Russie en guerre de Vladimir Poutine, une guerre que les médias sont toujours tenus d'appeler opération militaire spéciale en Russie, on le rappelle, sous peine de poursuite judiciaire, une très grande attention est portée de façon assez permanente à ceux que l'on qualifie de héros. Ce sont ceux qui combattent dans cette guerre contre l'Ukraine. Alors, Vladimir Poutine, il a lancé un programme intitulé « Le temps des héros ». Et ce programme, il permet aux vétérans de ces combats, de la dite opération militaire spéciale, d'accéder à des postes de gouvernance. Il y a même des quotas à remplir. Alors, il destine ces vétérans, il le dit explicitement, à devenir l'élite du pays, l'élite dirigeante du pays. La chaîne d'information en continu étatique Rossiya 24 leur a consacré un reportage. Regardez un extrait.
Le commandant d'une brigade d'assaut, Igor Yurgin, est devenu ministre de la jeunesse de la République de Yakoutie. Il a reçu une médaille d'or pour son courage au combat. Quant au héros de la Russie, Arthur Orlov, il a été désigné par décret présidentiel chef d'un mouvement de jeunesse dont l'une des missions principales est l'éducation patriotique. Ces gens ont déjà démontré qu'ils ne redoutent pas les missions difficiles.
Alors pourquoi le régime russe qualifie-t-il systématiquement ceux qui envahissent l'Ukraine de héros?
Eh bien parce que Poutine, on le redit, rejoue la grande guerre patriotique. Sa propagande affirme que les soldats russes défendent la patrie des nazis qui voudraient la détruire. Le mythe fondateur dans cette guerre, il est né pendant la révolution pro-européenne ukrainienne, de Maïdan en 2014, qualifiée de coup d'État nazi par ce mythe. C'est ce qui a permis à Vladimir Poutine de justifier une prétendue nécessité de défendre ces russophones d'Ukraine et la ville de Vouglédar qu'on a vue tout à l'heure dans le reportage. Il faut savoir que c'est vraiment une ville martyr. Ça a été l'une des deux opérations secrètes de l'armée russe avant même que Vladimir Poutine n'a attaqué à grande échelle l'Ukraine en 2022. C'était en 2015. J'ai suivi ce combat du côté des Russes et l'armée russe était là alors que Vladimir Poutine disait que c'était une guerre civile entre les Ukrainiens. Alors en 2022 justement, la propagande russe, elle a aussi agité le spectre d'une prétendue attaque de grande ampleur de l'Ukraine contre ces territoires d'Ukraine partiellement donc occupé par la Russie depuis 2014, la Crimée et le Donbass. Et la Russie, elle y avait organisé déjà des référendums d'autodétermination pour légitimer son intervention. Alors, périodiquement, maintenant, en ce moment, Poutine martèle aux Russes et au monde qu'il y avait une réelle menace pour ces populations, voire pour la Russie elle-même. C'est pour ça qu'il n'avait pas d'autre choix que de libérer l'Ukraine des nazis, comme il le dit. Et il l'a redit encore, c'est pour ça qu'on en parle il y a quelques jours, lors de ses vœux, à l'occasion du deuxième anniversaire du rattachement de ces quatre régions ukrainiennes, partiellement envahies donc par son armée à la Russie. Écoutez le président russe.
Ils préparaient l'armée ukrainienne pour une nouvelle guerre, pour mener de nouveau, comme au printemps et à l'été 2014, une expédition punitive au sud-est de l'Ukraine. Ils avaient en ligne de mire non seulement le Donbass, mais aussi la Crimée et d'autres régions russes. Les événements qui sont advenus ont entièrement confirmé le caractère indispensable et fondé de l'opération militaire spéciale. En vérité, c'est une opération de libération. Je remercie tous les citoyens du pays pour leur unité, leur sentiment patriotique. La vérité est dans notre camp, tous les objectifs fixés seront atteints.
Et puis vous revenez, Elena, sur cette propagande de Vladimir Poutine dans votre livre qui est sorti hier, « Propagande, l'arme de guerre de Vladimir Poutine ». Un livre passionnant, vous allez plus loin justement en redonnant du contexte, en recherchant dans l'histoire l'origine de ce mythe utilisé par Vladimir Poutine qui dit déjà qu'il veut libérer l'Ukraine des nazis. D'où ça vient ?
Et alors, ça vient de très loin. Ça vient d'abord de l'amalgame qu'il fait entre le nationalisme ukrainien et le nazisme. Parce qu'aujourd'hui, le nazi générique dans le discours russe, c'est vraiment celui qui s'oppose à sa guerre d'invasion de l'Ukraine. La béquille de ce discours, le prétexte de ce discours étant la collaboration des Ukrainiens avec l'armée de Hitler au moment où Hitler est entré en Pologne de l'Ouest et ensuite a avancé ses troupes. Et il a été accueilli en héros par un certain nombre d'Ukrainiens qui, eux, déjà ayant été envahis par l'Union soviétique en vertu du pacte Molotov-Ribbentrop, avaient subi déjà dans les années 30 le Holodomor et puis cette invasion sauvage et puis les purges staliniennes, les répressions, les déportations, etc. Tout cela a duré un temps et ce n'était évidemment pas tous les Ukrainiens, mais dans le mythe, dans la propagande de Staline déjà, il y avait cet amalgame entre les nazis et les nationalistes ukrainiens. Et puis ce mythe a été remis au goût du jour par Vladimir Poutine au moment de la révolution de Maïdan en 2014, lorsqu'il a pris, mais en 2004 aussi d'ailleurs, il y a eu une révolution pro-européenne en Ukraine où étaient taxés de nazis les pro-européens, il faut le savoir. Et donc en 2014, au profit des éléments extrémistes en fait, qui étaient réellement présents hein, sur la place Maïdan, évidemment comme dans tout mouvement de masse de désobéissance civile, mais ce discours, je raconte, je ne peux pas y revenir parce que c'est important de placer les faits dans leur contexte, mais j'y reviens très en détail dans mon livre à l'aide d'universitaires, de chercheurs, pour remettre justement les faits à leur place.
Et puis pour montrer qu'il y a une instrumentalisation de ce moment historique, en fait, de
bien
la
sûr,
part de Vladimir Poutine.
Bien sûr, parce qu'il fallait à Vladimir Poutine la figure d'un ennemi incontestable pour justifier sa guerre impérialiste aux yeux des Russes. C'est-à-dire que pour peu que ce discours qui agit de façon positive sur les Russes en disant que ce sont des terres légitimes, hein, ça c'est un discours qui est tout le temps présent en fait dans le discours russe, mais pour peu que ce discours ne suffise pas à justifier en fait aux yeux des Russes la nécessité entre guillemets, parce qu'il le présente comme une nécessité absolue d'occuper l'Ukraine, ça ne s'appelle pas une occupation, vous l'avez entendu, il l'a rappelé encore une fois, c'est une libération. Alors de qui on libère? Eh bien du mal absolu des nazis, c'est cet épouvantail des nazis qui a dressé les populations à l'époque avec une propagande extrêmement féroce contre les pro-européens de Kiev en Crimée et dans le Donbass pour demander la défense de Vladimir Poutine, tout comme Staline arguait la défense des pays baltes et des ukrainophones et des biélorussophones à l'époque, au moment du pacte des invasions soviétiques en vertu justement du pacte Molotov-Ribbentrop. Et cet appel à l'aide en fait des locaux, cette volonté de rattachement à Moscou, encore une fois, ce sont des mécanismes qui ne sont vraiment pas nouveaux. Lorsqu'on étudie ces parallèles hein, entre le XXe siècle,
est-ce qu'il s'est inspiré de Staline justement, Vladimir Poutine?
Oui, non, mais complètement. En fait, ce que je raconte aussi dans mon livre, c'est qu'au fil des ans, il a vraiment réhabilité Staline, quitte à effacer complètement la terreur stalinienne. Le terme de grande terreur est absent des nouveaux manuels scolaires russes. Il explique que Staline est le grand vainqueur de la Grande Guerre patriotique, soit, mais évidemment, l'alliance avec Hitler, d'abord, il a interdit d'amalgamer le nazisme et le stalinisme. Encore une fois, les répressions de masse, tout cela a été complètement gommé, c'est devenu quasiment un discours négationniste. L'ONG Mémorial, qui essaie de justement dresser les listes de victimes, a été liquidée et interdite sous prétexte qu'elle ternissait l'image de l'URSS comme d'un État terroriste.
Alors qu'elle faisait un vrai travail sur l'histoire.
Elle faisait un vrai travail sur l'histoire. C'est-à-dire que d'un côté, il y a eu la censure, la recherche historique a été interdite, et de l'autre côté, la propagande historique qui a transformé l'histoire en idéologie. Et Staline, en fait, aujourd'hui, et vraiment, je raconte très en détail aussi dans mon livre les cours d'histoire auxquels j'ai assisté, et cela ne date pas de 2022. Hein. Ce virage, il s'est fait vraiment sur 10 ans. Les premières tentatives de réhabiliter Staline datent de 2008, mais à l'époque, la société civile, il y a eu un rejet en fait, des Russes, parce qu'il y a eu trop de victimes de la terreur stalinienne. Mais à partir de 2012, et du virage civilisationnel que Vladimir Poutine a imprimé à son pays, la figure de Staline est revenue peu à peu. Ça s'est fait par le bas, par des initiatives locales, des antennes communistes en fait, qui défilaient avec son portrait. Et au fur et à mesure de cette réécriture historique, eh bien, on a commencé par apprendre qu'en fait, l'existence même de la Russie d'aujourd'hui, on la devait à Staline, parce que Staline a sauvé non seulement les Russes, mais aussi l'Europe du nazisme. Et en fait, c'est une histoire en noir et blanc. C'est-à-dire que les crimes staliniens sont devenus complètement absents, voire interdits, puisqu'on le disait, le mémorial a été liquidé.
Et vous parlez de la deuxième guerre de Tchétchénie, hein, que vous avez couvert à l'époque. Vous démarrez d'ailleurs votre livre avec Grozny, Poutine est chef des services secrets russes à l'époque, nommé premier ministre par Yeltsin. Il va bientôt lui succéder. Et tous les éléments de langage sont déjà là pendant cette seconde guerre de Tchétchénie.
Alors, il y a un certain nombre de choses qui sont là. Hein. Pas tous les éléments de langage, mais il y a des éléments de langage qui sont là. D'abord, le fait de ne pas appeler une guerre une guerre. À l'époque, c'était une opération antiterroriste. Et c'est ce qu'un nombre de personnes, un certain nombre de personnes expliquent comme étant la figure de l'ennemi, le terroriste hier, le nazi aujourd'hui, le fait de souder son peuple autour du défenseur contre cet ennemi qui a permis à Vladimir Poutine de se porter au pouvoir, puisqu'en août 1999, lorsque le KGB le place au pouvoir dans l'ombre de Yeltsin, eh bien, Poutine est un parfait inconnu. Et en fait, après les attentats contre des immeubles à Moscou et le déclenchement de la Deuxième Guerre de Tchétchénie, Poutine bondit dans les sondages et en fait, il fonde sa popularité sur une opération antiterroriste. Et si vous parlez aux Russes aujourd'hui de la Deuxième Guerre de Tchétchénie, ils savent très peu de choses parce qu'immédiatement, le territoire a été bouclé. C'était extrêmement difficile pour les journalistes d'y pénétrer. La censure a été extrêmement forte autour de ce conflit. Il y a des massacres qui se sont déroulés à huis clos. Et du coup, bah, voilà, c'est ça le parallèle. C'est d'abord la figure de l'ennemi incontestable et ensuite bah, le fait que Boutcha est désigné comme un fake par les médias russes. Les crimes de l'armée russe à l'époque dans des villages autour de Grozny.
On
connaît le massacre de Novaldi, par exemple, ça n'existe pas non plus dans le discours officiel.
Dans quelle mesure, justement, vous parliez du peuple russe, il n'était pas réceptif à cette propagande il y a 15 ans. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que c'est un lavage de cerveau généralisé ?
Ah oui, alors lavage de cerveau généralisé, oui, très certainement, et plus rien.
Et l'impact sur le...
Alors, l'impact, c'est ce qu'il y a de plus intéressant, mais je pense que l'impact est énorme. La propagande agit d'une façon extrêmement puissante. Elle dirige vraiment les individus et en fait, tout le monde se met à parler à coups de slogans. Tout le monde répète la même chose et en fait, quand vous parlez avec le locuteur, alors quand je dis le russe, c'est le russe générique, d'autant plus depuis que la censure a interdit toute expression libre. Tout le monde dit vraiment la même chose parce que ceux qui pensent autrement, il y en a, ils ont peur évidemment de s'exprimer, même s'il y a encore des résistants qui, au détriment de leur liberté, voire parfois de leur vie, expriment leur opinion. Mais c'est vrai que tout le monde retransmet. Moi, j'ai une psychologue dans mon livre à qui je pose cette question, mais comment ça se fait que cette propagande agit autant ? Elle me dit, on ne peut pas parler de ce que les Russes pensent, on peut parler de ce que les Russes retransmettent. Et cette personne est à Moscou. Hein. Donc, elle sait de quoi elle parle. Depuis 2022, elle travaille, elle suit des Russes qui viennent lui parler à elle, à huis clos. Elle dit, voilà, il y a ce que les Russes retransmettent. C'est une version qu'ils s'approprient à titre d'opinion et c'est plus facile, parfois, de parler ainsi, de ne pas savoir ce qui se passe réellement, ce que fait réellement la Russie en Ukraine.
Et donc, alors, ils la vivent, cette réalité parallèle, je veux dire, au quotidien.
Alors, moi, j'ai un passage. J'ai lu Mein Kampf à la fin de l'écriture de ce livre parce que, justement, je voulais pas trop voilà, faire d'amalgame ni rien. Il y a une citation que j'ai retenue de Mein Kampf, c'est « Au début, elle paraissait insensée dans l'audace de ses affirmations. Plus tard, elle fut considérée comme déplaisante. Enfin, ils se mirent à la croire. » Cela résume l'effet de la propagande. Hitler l'écrit dans un chapitre intitulé « Propagande de guerre ». Et en fait, il prescrit la propagande comme étant l'arme de guerre la plus puissante, celle qui doit précéder les armes, sans laquelle les armes ne peuvent rien. Il dit que l'Allemagne a été défaite lors de la Première Guerre mondiale parce que sa propagande n'était pas assez puissante. C'est vous dire l'effet de cette propagande, mais pas que dans la Russie poutinienne. Le fait est que la Russie poutinienne est celle qui, au XXIe siècle, a réactivé le mythe total. C'est-à-dire que la force est dans la vérité. Vous l'avez entendu à la fin de cet extrait, Vladimir Poutine dit « la vérité est dans notre camp ». Pourquoi doit-il le rappeler aux Russes s'il leur dit la vérité ? Parce que c'est important qu'ils comprennent que la vérité, c'est la leur, mais la vérité n'existe pas dans le monde réel. C'est ce que fait la propagande, c'est remplacer les faits par des versions. Et c'est ce que j'essaye de faire dans ce livre, c'est de remettre les faits à leur place. Je ne donne pas mon opinion, je raconte méticuleusement, chronologiquement, ce qui s'est passé, comment on en est arrivé là, et ensuite chacun peut se faire son opinion.
Un mot justement sur la propagande qui existait déjà du temps de l'Union soviétique, vous parliez de Staline. Là, on peut dire que, est-ce que cette propagande perdurera après Poutine ?
Alors ça, c'est un énorme point d'interrogation. L'espoir, il est que... plus vous poussez le volume de la propagande, plus vous voyez l'effet sur les individus. Alors, je l'ai vraiment constaté en Russie, dans les phases actives de conflit, le 24 février 2022, lors de l'annexion de la Crimée, on était désigné comme ennemi et tout le monde vraiment nous haïssait. Plus vous poussez ce volume et plus ça agit. Et dès que vous l'éteignez, tout le monde redevient... les Russes sont soulagés qu'on n'attend plus d'eux, en fait, qu'ils haïssent quelqu'un. Je l'ai vécu en 2018, pendant la Coupe du monde de football en Russie, où tout d'un coup, il n'y avait plus ces discours de haine quotidiens. Parce que ce sont vraiment des discours, il faut le comprendre, des discours de haine, d'appel au meurtre, voilà, sur fond de guerre en Ukraine. On ne les entend pas à l'extérieur du monde russe, entre guillemets, mais c'est ce qui résonne. Et ça, c'est l'espoir. Alors après, la question est celle... du changement ou pas de régime après la chute de Vladimir Poutine. On voit que ce régime n'a pas survécu aux luttes intestines des années 90, que le KGB / FSB / NKVD / MGB, tout ce que vous voulez, les services secrets russes, il y a des historiens qui le racontent très bien, cette perpétuation ont survécu à la chute de l'Union soviétique, que Vladimir Poutine est en train d'essayer de restaurer le grand pays dont rêvait Staline, qui était aussi un impérialiste, et en fait de retourner à l'Empire, parce que Vladimir Poutine, on le voit et je l'analyse à travers ses discours, est en fait un nostalgique de la Russie blanche et non de la Russie rouge, comme on l'a pu le penser pendant très longtemps. Et donc,
le tsar,
en fait,
donc.
Quid, hein, le tsar, et quid de la perpétuation de ce régime après lui. Je crains que le système étant tellement tentaculaire et le mode d'emploi en fait de la terreur ayant tellement de siècles dans ce pays qui n'a jamais malheureusement encore connu la démocratie et qui tente à exporter son modèle et nous imposer ses récits et ses discours. Je crains malheureusement qu'avec le retournement aussi des opinions, quand je dis retournement, c'est le fait que les gens cessent de connaître les faits réels de cette guerre impérialiste. Malheureusement, il a beaucoup d'instruments pour lui. Et nous, on n'était pas prêts à mener cette guerre de l'information. On l'a pas voulu. On essaie juste.
Donc, il est en train de la gagner, cette guerre de l'information, vous dites ?
Bah, je dis qu'on est forcé de mener un combat parmi nous. Malgré nous, c'est ce que j'essaie de faire en racontant la propagande de Vladimir Poutine. C'est évidemment, tu es tout de suite en retour taxé de propagandiste. Mais je parle de la propagande parce que la propagande est devenue l'information principale dans ce conflit. En fait, ce conflit est possible et les gens le soutiennent à cause de la propagande de Vladimir Poutine, qui est une arme de guerre extrêmement puissante. Des propagandistes russes me l'ont dit. Dmitri Kisilov, l'un des plus célèbres propagandistes russes, m'a dit « Si vous gagnez la guerre de l'information, alors vous pouvez lâcher les bombes, tout simplement. » Encore une fois, la vocation de journaliste qui nous porte, qui moi m'a porté vers ce métier, c'est de rapporter les faits. C'est pour ça que je parle de la propagande depuis très longtemps, parce que lorsqu'on s'est retrouvé en Crimée en 2014, avec l'armée russe en train de se déployer, Vladimir Poutine disant que ses soldats n'en étaient pas, des populations sortir dans la rue, manifester en disant « des nazis vont venir nous massacrer, nous on descendait de Maïdan », qui avait été une révolution de cœur pro-européenne, fondamentalement libertaire, avec une soif de liberté et de démocratie, et on voyait ces gens dire « nous, on veut pas des nazis chez nous », là, c'est terrifiant, l'effet de cette propagande, et c'est vraiment extrêmement puissant, et c'est déployé à grande échelle et de façon globalisée.
Et la Volochine, propagande, l'arme de guerre de Vladimir Poutine, c'est aux éditions Autrement, ça vient de sortir, c'est passionnant. Merci, merci. Elena, Vue de Russie, c'est encore jeudi prochain, donc on vous retrouve bien sûr jeudi prochain. Merci d'avoir été avec nous.
Merci.
Et bravo pour ce livre.
Merci.